Bon, et bien voilà, bonsoir à toutes et à tous. Je vais peut-être commencer par une information que nous apporte Guy Poblum, qui est notre conférencier de ce soir, puisque le RI3, qui est le réseau international d'institutions infantiles, organise une journée en Belgique sous le titre « L'enfant généralisé ». Ça aura lieu le 24 janvier à Ixelles. Alors il y a ici une affiche, si cela vous intéresse, à la fin de la conférence, venez prendre les informations. Et pour ceux qui sont dans l'université, ce sera affiché ici en bas et au bâtiment 18, place du Parc également. Ou bien on peut m'envoyer un mail et je transmettrai l'information. Vous l'avez peut-être sous PDF, que je puisse la... Voilà, c'est ça. Et donc c'est les institutions organisatrices sont l'antenne 110 qui se situe à Genevalle et qui accueille des enfants, le Courtil et le Prétexte. Voilà. Alors je vais résumer à bonne date cette fois-ci la conférence de Philippe Hellebois, puisque j'avais déjà proposé de la résumer il y a 15 jours. Donc Philippe Hellebois nous avait parlé des séances 6 à 8, c'est cela ? Sous le titre de finalement la jeune homosexuelle, puisque Philippe avait choisi de développer plus ce cas-là et de laisser un peu de côté le cas Dora. Alors il nous a indiqué que l'objet est toujours manquant et qu'il ne vaut d'ailleurs que par son absence, cet objet, absence qui est opérante et dont on peut voir son caractère opérant, notamment à travers les concepts tels ceux du désir, de la pulsion, du symptôme et du fantasme. Freud, nous dit-il, voit la cause ou la fondation de l'objet comme manquant dans le complexe d'Œdipe, là où Lacan va opérer un déplacement, puisque lui dit qu'au fond, la fondation de ce manque d'objet vient du langage lui-même et du fait que l'être vient au monde dans le langage. Il dit d'ailleurs, Lacan, le langage est œdipien, signifiant comme ça que, par l'opération du symbolique et du signifiant, il y a un barrage de la jouissance qui est fait. C'est ce que j'ai indiqué dans la petite formule S sur J barré. Et donc, au fond, de cette opération, pour le sujet, résulte l'entrée dans le monde symbolique, qui est finalement un plus, mais d'un autre côté, la perte de la jouissance. Alors, il s'agit de ce qu'on appelle la métaphore primordiale mythique, que moi j'ai raccroché à la Beuyaung, ce dire oui fondamental de l'être humain. Enfin, je me suis posé la question. Cela entraîne un certain nombre de conséquences, notamment qu'il n'y a plus de rapport direct de l'homme à la nature. Et donc c'est dans cette direction-là qu'il faut comprendre la phrase de Lacan « il n'y a pas de rapport sexuel » puisque on ne peut plus parler, comme dans le monde animal, de mâle et de femelle, mais d'hommes et de femmes, qui sont conséquents au rapport, cette notion d'homme et de femme, au rapport singulier que chacun entretient au phallus. Un deuxième concept découle de cela, qui est le concept de l'après-coup, à savoir qu'il y a toujours un temps pour comprendre ou interpréter. Cela tient au système symbolique lui-même et cela influence notre perception. On faisait d'ailleurs remarquer à l'occasion qu'il n'y a pas de possibilité d'une observation objective directe par ce fait même, par exemple. Et c'est là que Philippe Hellebois nous a présenté cette notion d'être intellectuel, puisqu'on est tous dans un rapport à cette compréhension d'après-coup. Au fond, on est tous devant comprendre et manifester notre activité intellectuelle. Donc rien de plus commun que d'être un être intellectuel, nous dit Philippe Hellebois. Alors, ce chemin qui n'est peu naturel l'est encore moins pour la femme qui doit se faire objet d'amour pour obtenir le phallus. Philippe Hellebois nous a indiqué une opposition ici présente dans le séminaire, au fond, entre le côté hystérie féminine et perversion et homosexualité féminine, tout en nous disant que cette opposition hystérie et homosexualité n'est pas toujours aussi développée à d'autres endroits. Donc l'hystérique, elle dira plutôt « qu'est-ce qu'une femme ?» et elle aura un rapport problématique au phallus, là où l'homosexuel aura, elle a la réponse à cette question « qu'est-ce qu'une femme ?» et elle sait que le phallus est là, mais pour elle, c'est inacceptable. Alors, la deuxième partie de la conférence était principalement consacrée au cas de la jeune homosexuelle et à sa présentation. Et Philippe Hellebois nous a montré, au fond, qu'on pouvait déplier ce cas en trois temps, avec des permutations qui font passer cette femme, cette jeune femme, de la frustration à l'expression du symptôme, finalement. Alors, j'ai rapidement remis le schéma L ici en place. Donc, dans le premier temps, au fond, on trouve en place du sujet la mère qu'elle voudrait être, et en place du grand autre, le père symbolique, l'enfant et le phallus imaginaire sur l'axe imaginaire. Dans le deuxième temps, celui où la mère a dans le réel, dans la réalité, un enfant bien réel du père, la mère et l'enfant devient au statut de réel, en place de sujet. Il y a toujours sur l'axe imaginaire, alors vient sur l'axe imaginaire le père imaginaire, qui au fond est passé d'un statut symbolique à un statut imaginaire. Pourquoi ? Parce qu'il déçoit sa fille, et vient en place du grand autre, le phallus. Au fond, elle fait l'homme qui aime une femme pour expliquer ce qu'est le vrai amour. Cet amour idéalisé et courtois. Enfin, qui peut être attaché à l'amour courtois. Alors, dans le temps 3, on retrouve les mêmes éléments aux mêmes positions du schéma L, mais ici, il y a apparition d'un symptôme, puisqu'elle se sent obligée de faire scandale au grand jour. Souvenez-vous qu'elle se promène sous les fenêtres de l'habitation du père avec sa compagne, pour expliquer au père, au fond, ce qu'il n'a pas fait, et comment il faut aimer une femme. Donc le père est ravalé du statut de symbolique au statut d'imaginaire, et Philippe Hellebois soulignait que dans la perversion, tout se passe toujours dans l'imaginaire. On a clôturé la séance sur une remarque sur le transfert et le contre-transfert de Freud, qui explique, selon Lacan, un certain échec de la cure. Voilà. Alors, je vais passer ce soir la parole à Guy Poblom. Guy Poblom, qui est psychanalyste à Tournai, directeur thérapeutique au Courtil 15, donc où on accueille des enfants entre 6 et 16 ans environ, à peu près, et qui est également membre de l'ECF, et vous allez nous parler ce soir du fétiche dans les séances 9 à 11. Oui. Voilà, je vous remercie.
Bien. Dans la suite de la présentation du séminaire 4, donc j'ai travaillé pour vous et pour moi les trois chapitres regroupés sous le titre « L'objet fétiche ». Ces trois chapitres sont entourés, bien sûr. Ce qui précède, c'est le cas de la jeune homosexuelle de Freud, auquel Lacan donne tous ses développements, et Philippe Hellebois aussi l'a fait la fois dernière. Et ce qui suit, c'est la flamboyance du cas de Hans. Rien de tout ça dans les trois chapitres que j'ai à vous commenter. Pas de grand cas freudien, mais un voyage, un frayage plutôt dans la littérature analytique de l'époque, et qui, à en croire Lacan, n'est pas très ragoûtant. Ça ne donne pas vraiment envie. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte en reprenant ce séminaire que j'avais un peu bâclé cette partie, que j'étais vite passé de l'homosexuel au petit Hans, sans trop m'attarder. Il a donc fallu que je m'attarde pour me rendre compte que ces chapitres témoignent du travail de recherche de Lacan. Il reprend en fait la question dans ces chapitres de la dialectique de la frustration, dont vous a déjà parlé probablement, à partir de la perversion, pour lui faire faire un tour de plus. Le cadre général de ces chapitres est la période pré-œdipienne. Les personnages mis en scène sont la mère et l'enfant. Lacan reprend la dialectique de la frustration pour amener l'enfant, le sujet enfant, au seuil de l'Œdipe. Et la question qui traverse ces trois chapitres est la suivante. Comment, dans cette dialectique entre la mère et l'enfant, s'introduit le phallus? Comment entre-t-il en scène? Troisième personnage, donc. Qu'il entre en scène, les faits, la clinique, sont là pour en attester. Mais la véritable question, c'est quelles sont les conditions pour qu'il puisse entrer en scène et jouer son rôle? Comment le phallus peut-il simplement commencer à exister pour l'enfant dans sa relation à la mère? Évidemment, je prends le train en marche et j'entre dans le séminaire en son milieu. Il y a des choses avancées par Lacan dans ces pages qui supposent les chapitres précédents et que les collègues qui sont déjà venus cette année ont déjà présentées. Mais reprenons quand même la dialectique de la frustration telle qu'elle est articulée par Lacan dans le chapitre 4. Je pense que c'est indispensable pour pouvoir s'engager dans les chapitres 9, 10 et 11. Dès le départ, donc, je vais redire des choses que vous avez déjà entendues, mais je pense que ce n'est pas inutile. Dès le départ, il y a donc deux versants, celui de l'objet et celui de l'agent. L'objet au point de départ, c'est l'objet réel, l'objet oral, la nourriture, en tant qu'il vient donner satisfaction à un besoin, celui de devoir manger pour survivre. L'agent, c'est celui qui apporte à l'enfant cet objet réel, et il se fait que cet agent, la mère en l'occurrence, est prise dans un battement, présence-absence. Elle vient, elle part. Sa présence peut être appelée quand elle est absente et repoussée aussi pour la faire absente. Ce battement, c'est l'essence même du symbolique, l'opposition du plus et du moins. Vous savez que le symbolique, que le langage est défini comme un système d'opposition. Un signifiant ne prend sa valeur que par opposition, différenciation à tous les autres signifiants. Eh bien, ce premier battement, présence-absence, de la mère, introduit le sujet enfant au registre du symbolique. L'agent, donc la mère ici, est symbolique. Objet réel, agent symbolique. Et l'enfant témoigne très vite de son engagement dans ce symbolique primordial, pré-œdipien, par le jeu du Forda, que vous connaissez bien, par lequel l'enfant représente cette alternance présence-absence en manipulant un objet qu'il repousse et qu'il reprend, accompagnant cette activité de vocalise. Alors, les vocalises freudiennes sont Forda, O-A. Chacun a pu observer cela chez des enfants en bas âge. Du coup, le cri lui-même, parti de la douleur que provoque la faim chez l'enfant, est pris dans le système symbolique et se transforme en appel. Comme le dit Lacan, le cri s'insère dans un monde synchronique de cris organisés en système symbolique. Les cris sont d'ores et déjà virtuellement organisés en un système symbolique. C'est-à-dire que le cri de l'enfant, pour prendre sa signification, va s'opposer à tous les autres cris. C'est dire que le cri n'est pas pris par l'autre comme un signal, mais comme un signifiant, qui ne prend sa signification dans l'autre que de son opposition aux autres signifiants, aux autres cris. Tous les cris de l'enfant ne s'équivalent pas. Les mères, à la maternité, nous l'apprennent. Là, il pleure de colère. Maintenant, il a faim. Ou il a mal. Ou il est fatigué maintenant, etc. Le cri est d'emblée pris dans toute une batterie symbolique qui précède l'enfant, qui l'accueille et le reçoit dans son réseau. Et très vite d'ailleurs, souligne Lacan, l'enfant montre un grand intérêt pour ces cris modelés et articulés qui s'appellent des paroles et pour le système du langage pour lui-même. Venons-en à la seconde étape de cette dialectique de la frustration. L'agent symbolique, donc la mère, qui va et qui vient, peut ne plus répondre à l'appel de l'enfant et sortir ainsi du circuit symbolique. Elle devient alors une puissance, une toute-puissance, dit Lacan. Elle peut répondre ou pas à son gré. Elle sort de l'alternance symbolique et devient réelle. Du coup, l'objet, qui au point de départ était objet réel, objet de la satisfaction d'un besoin, change de statut. Il devient témoin, symbole du bon vouloir ou non de la mère. Il devient objet de don ou du non-don, du refus du don. Cet objet prend son statut du fait de symboliser l'amour de la mère pour l'enfant. Il est symbole du don d'amour. Plus exactement, l'objet devient le don lui-même. C'est le don lui-même qui devient le symbole de l'amour. Ça, c'est quand même important. C'est plus l'objet, c'est le don lui-même qui devient symbole de l'amour. L'objet devient donc symbolique.
Je vais peut-être écrire au tableau, puisqu'il y a un tableau.
Donc, dans le premier temps, on a l'objet réel et l'autre qui est symbolique, et dans un second temps, l'objet symbolique et l'autre réel. L'objet devient donc symbolique, c'est-à-dire qu'il perd son statut d'objet réel de simple satisfaction du besoin. La réalité de l'objet est en quelque sorte annihilée par cette opération. L'objet n'est plus rien de concret, ou il peut être n'importe quoi, notamment des paroles, par exemple. Le don de la parole est don d'amour. L'objet réel a disparu dans le symbole. Finalement, l'objet symbolique, c'est l'objet perdu. Cela rejoint d'ailleurs l'idée freudienne qu'on ne trouve jamais l'objet, qu'on ne fait que le retrouver. En fait, ce passage de l'objet réel au symbolique introduit l'enfant à quelque chose qui s'appelle le manque et qui est radical, qui ne sera plus jamais comblé. C'est ce qu'illustre Lacan, par exemple, de Freud, par l'exemple de Freud qu'il rapporte de sa fille Anna. Elle rêve la nuit et dit « framboise, flan », qui sont des objets interdits, qui sont en fait des signifiants. Lacan insiste pour dire que ces objets ne correspondent aucunement à un besoin réel, car certainement Anna s'était endormie repue. Mais s'ils sont maintenus dans le rêve comme un désir, c'est qu'ils symbolisent ce désir comme impossible, dit-il. Le manque est donc bien radical. L'objet est à tout jamais perdu. Un enfant, je vous donne un autre petit exemple, un enfant en institution, en témoignait d'une façon plus dramatique, je crois. Il disait « Ma mère me manque », disait-il alors qu'il était séparé de sa mère, donc quand il était en institution. Et il ajoutait après « Même quand elle est là, elle me manque ». D'un autre côté, donc, la mère de symbolique devient réelle. Elle est toute puissante, car elle a le pouvoir de répondre ou de ne pas répondre, voire de ne plus répondre. Cette mère, bien que toute puissante, en tant que sujet, elle a aussi affaire à son propre manque, et qui plus est, si elle sort de la régularité symbolique des allées et venues, c'est bien que quelque chose la retient ailleurs. C'est là qu'entre en scène le phallus, comme étant ce qui manque à la mère, comme étant cet objet imaginaire qui lui manque. Là, c'est la triade imaginaire que Lacan introduit, dont vous avez déjà entendu parler également. Donc, jusqu'ici, on avait affaire au réel et au symbolique, avec la dialectique de la frustration. Maintenant, c'est l'introduction du registre imaginaire. La relation mère-enfant ne peut pas se refermer sur elle-même. Tout dans la clinique montre qu'un tiers terme intervient, qui désigne le manque de la mère, en tant qu'objet imaginaire, le phallus. Bien sûr, l'enfant peut vouloir venir combler dans la réalité ce manque pour la mère, ou le symboliser, mais il n'y parvient pas. Il y a toujours chez elle, à côté de l'enfant, l'exigence du phallus. L'enfant donc n'est pas l'objet unique de la mère. Mais l'enfant, lui, qui a sa relation avec sa mère, n'en sait rien. Lui, il est dans son trip de la dialectique de la frustration symbolique au réel, et là-dedans, sa mère est toute puissante. De son côté à elle, la mère est là, avec l'enfant, mais aussi avec son manque de phallus, qui est au-delà de l'enfant. Comment est-ce que ces deux choses vont se rencontrer? Comment est-ce que cela va s'articuler? À quel moment l'enfant est-il en mesure de s'apercevoir que ce que sa mère désire en lui, sature et satisfait en lui, c'est son image phallique à elle, la mère, dit Lacan. Cette question est vraiment récurrente dans le séminaire. Elle revient à de nombreux endroits. Comment l'enfant peut-il subjectiver le manque de l'autre? Là est toute la question. Après cette longue introduction, venons-en au chapitre qui nous concerne plus directement. Et le premier, donc le chapitre 9, la fonction du voile. Ce chapitre commence par ce qui est un aphorisme célèbre de Lacan. Ce qui est aimé dans l'objet, c'est ce dont il manque. On ne donne que ce qu'on n'a pas. C'est tout à fait lié à la dialectique de la frustration. L'objet réel est annulé quand il devient le symbole de l'amour de l'autre. Il n'est plus rien en tant qu'objet réel, il devient pur symbole de l'amour de l'autre. Il y a un joli passage dans le séminaire qui reprend ça, je vais vous faire une petite lecture. Ce qui intervient dans la relation d'amour, ce qui est demandé comme signe d'amour, n'est que quelque chose qui ne vaut que comme signe. Il n'y a pas de plus grand don possible, de plus grand signe d'amour que le don de ce qu'on n'a pas. Ce qui établit la relation d'amour, c'est que le don est donné, si l'on peut dire, pour rien. Dans le don d'amour, quelque chose est donné pour rien et qui ne peut être que rien. Ce qui fait le don, c'est qu'un sujet donne quelque chose d'une façon gratuite, pour autant que derrière ce qu'il donne, il y a tout ce qui lui manque. C'est que le sujet sacrifie au-delà de ce qu'il a. Supposons un sujet chargé de tous les biens possibles, un don venant de lui n'aurait aucunement la valeur d'un signe d'amour. Lacan part de là. La mère, si elle donne par amour à son enfant, si ce qu'elle donne est signe d'amour, c'est que ce qu'elle donne se réfère au-delà de ce qu'elle donne, à ce qui lui manque, à elle. Il y a donc un au-delà de l'objet. Au-delà de l'objet réel, il y a l'objet du don symbolique. Au-delà de la mère, il y a son manque. Le phallus, bien sûr, entre dans cette dynamique du don. Et la clinique analytique fait intervenir tout d'abord dans le rapport entre les sexes. Mais il est important de noter qu'ici, le statut du phallus change. On pourrait dire que la dialectique de la frustration, la triade imaginaire mère-enfant-phallus se situe, comme je le disais tout à l'heure, dans la période pré-œdipienne, c'est avant l'Œdipe. Dans le rapport entre les sexes, ben, on est quand même passé par l'Œdipe. Et quand même, là, le statut du phallus change. C'est important de le dire parce que dans le séminaire, Lacan utilise le terme de phallus, objet imaginaire, mais aussi à d'autres moments, symbolique, signifiant, etc. Et donc, et ça bascule de l'un à l'autre de façon répétée, donc c'est pas facile de s'y retrouver. Donc rappelez-vous, dans le rapport de la mère à l'enfant, le phallus entre en scène comme objet imaginaire qui manque à la mère. Imaginaire car pas réel. C'est pas l'organe. Le manque dont il s'agit ne tient pas à l'organe réel. Il tient à ce qu'à côté de l'objet réel et symbolique dans la dialectique de la frustration, dans la relation mère-enfant, donc à côté de cette relation mère-enfant, il y a l'introduction d'un tiers objet imaginaire qui manque. Je pense que Lacan dit aussi imaginaire, car cela tient à l'image du corps. Retenez cela, car nous allons y revenir tout à l'heure. Donc, un statut symbolique ou un statut imaginaire. Mais si donc, dans le rapport entre les sexes, le phallus est tout aussi bien situé dans un au-delà. Ce n'est pas que comme réel, il existe ou il n'existe pas, mais qu'il est de sa nature de se présenter dans l'échange entre les sexes comme absence, absence fonctionnant comme telle. Il prend ici un statut symbolique. Il est fait, dit Lacan, pour avoir cette sorte d'alternance fondamentale qui fait qu'étant apparu en un point, il disparaît pour reparaître dans un autre. Ou encore, le phallus. La femme ne l'a pas symboliquement. Mais n'avoir pas le phallus symboliquement, c'est en participer en tant qu'absence, c'est donc l'avoir en quelque sorte. Il existe en tant qu'absence. Cela rejoint tout à fait ce qu'il en est du don. L'échange du phallus dans la relation entre les sexes est don d'un objet symbolique qui est annulé en tant que réel, qui se fait signe d'amour, mais aussi symbole de ce que l'autre n'a pas. Ce n'est pas un objet réel, ce n'est pas l'organe réel. Et la fonction symbolique du phallus, c'est d'instaurer la différenciation symbolique des sexes. C'est en tant qu'elle entre dans la dialectique d'avoir ou de n'avoir pas le phallus que la jeune fille entre dans l'échange symbolique, qu'elle entre dans le complexe d'Œdipe. Et c'est par là que le garçon en sort. Il y a une remarque essentielle à faire ici pour expliquer le changement de statut du phallus qui d'imaginaire devient symbolique. Remarquons qu'il devient symbolique quand il s'agit de l'échange intersubjectif, du rapport entre les sexes, donc de l'Œdipe. Donc, on passe du pré-œdipien au registre œdipien. On entend d'ailleurs chez Lacan qu'on est dans un autre registre. Alors que quand il parle du phallus imaginaire, on entend qu'on est dans un autre registre symbolique, c'est-à-dire celui de l'échange, du don d'amour, qui annule l'objet. Donc on entend bien dans cette façon qu'évoque Lacan le phallus dans le registre œdipien qu'on est dans le champ symbolique. Alors que quand il parle du phallus imaginaire, on est dans la période pré-œdipienne, que je disais tout à l'heure, dans la triade mère-enfant-phallus. Il faut l'Œdipe, l'intervention donc du père, pour que le phallus prenne son statut symbolique. Dans la triade imaginaire, il n'y a pas le père. Dans ces pages, il est quand même très absent, le père, dans le discours de Lacan. Et c'est donc cette période-là qui intéresse Lacan, qui est au seuil de l'Œdipe, quand le phallus est imaginaire, pas encore symbolisé. Comment l'enfant est introduit ? Est-il introduit à cette discordance imaginaire qui fait qu'il est pour la mère ce qui peut venir combler son manque, mais qu'il n'y parvient pas. C'est là la question de Lacan, et c'est là aussi, à ce moment de passage, juste avant l'Œdipe, que des choses peuvent se nouer, qui feront que le phallus ne prendra pas forcément son statut symbolique, mais qu'il peut garder son statut d'objet imaginaire. C'est là qu'il avance la question de la perversion. Enfin, c'est pas si simple quand même. Car comment dire, il y a chez Lacan, avec l'approche de la perversion, du pathologique comme il dit lui-même, en même temps une approche de la structure. Comme par exemple, c'est avec la psychose qu'il a écrit la métaphore paternelle. Ici, c'est avec la perversion qu'il essaye d'écrire les formules de ce qui se passe au niveau de cette période pré-œdipienne. Alors, l'objet fétiche. Le fétiche, dit Freud, représente le phallus en tant qu'absent, le phallus symbolique. C'est Lacan qui reprend. Donc voilà. Tout de suite, on a une contradiction. Hein. Donc dans la perversion, le phallus reste imaginaire, et ici, Lacan dit, Freud dit, c'est le phallus symbolique qui est en jeu dans le fétiche. Bon. Ça ne veut pas dire, Lacan reprend donc ça de Freud, et il répond tout de suite, il dit, ça ne veut pas dire qu'il est le phallus symbolique. Il le représente. Freud dit, le fétiche représente le phallus symbolique. Il ne l'est pas. C'est un symbole, disent les analystes. Ce n'est pas sans difficulté, car pourquoi un objet symbolique, dont on a dit tout à l'heure qu'il était, en tant qu'objet réel, annulé, annihilé, donc pourquoi cet objet, un objet symbolique, devrait-il se matérialiser ainsi dans le fétiche? Si dans l'échange entre les sexes, ce qui s'échange, c'est le manque d'objet, justement, le manque au-delà de l'objet, pourquoi doit-il se matérialiser dans le fétiche? D'une certaine façon, le fétiche noue le symbolique et l'imaginaire. Le fétiche se rapporte, on le sait, à cet au-delà jamais vu, le phallus de la mère. Dans la clinique, c'est souvent lié par le sujet à son expérience infantile où il s'arrête dans son observation au bord de la robe de la mère, pas plus haut que la cheville, là où on rencontre la chaussure. Dès lors, cette chaussure peut prendre la fonction de substitut de ce qui n'est pas vu. Mais en même temps, qui est articulé par le sujet comme vraiment ce que la mère possède, à savoir le phallus, imaginaire, sans doute, dit Lacan, mais essentiel à sa fondation symbolique comme mère phallique. Donc on voit comment ici, par l'intermédiaire du fétiche, Lacan articule le phallus comme imaginaire et une fonction symbolique. Donc vous constatez avec moi que rien n'est simple. On n'a pas simplement le grand partage des eaux. La névrose et l'Œdipe, c'est le symbolique, et la perversion, c'est l'imaginaire. C'est plus complexe. En quoi le fétiche participe-t-il donc de l'imaginaire d'une part et du symbolique d'autre part? Le fétiche voile de fait la castration maternelle. Cette castration y est à la fois affirmée et niée. Ce qui correspond au terme freudien de Verleugnung, déni en français, qui s'oppose à la Verneinung, dénégation, ou encore à la Verwerfung, forclusion, pour ce qui est de la psychose. Le fétiche fonctionne comme un voile sur lequel peut s'imager, s'instaurer comme capture imaginaire, la relation à cet au-delà, à ce qui manque, donc à ce qui manque de fondamental de la relation symbolique. Ce n'est pas sans lien avec la question de l'amour, où ce qui est aimé est justement au-delà de l'objet. Ce qui est aimé, c'est son manque. Ce qui est au-delà, c'est rien. C'est le manque symbolique. C'est en tant qu'absent qu'il entre en fonction. Et dit Lacan, ce qui peut matérialiser, ce qui est visé au-delà de ce qui se présente, c'est le voile. Voilà, j'ai fait un petit schéma, je vais mettre au tableau quand même, ça peut être utile. Donc, il y a le sujet. Le voile. L'objet. Vous voyez encore, là? Et là, le rien. On peut aussi mettre le manque. Donc en fait, le sujet dans le rapport à l'objet, ce qui peut venir matérialiser son lien au manque de l'autre, au manque de l'objet, c'est justement ce qui vient se mettre, s'imager, comme il dit, sur le voile, sur l'écran. Donc ça fait en même temps le manque présent sur le voile, en même temps que ça le cache. Et bon. Avec la présence du rideau, dit-il, ce qui est au-delà comme manque tend à se réaliser comme image. Sur le voile se peint l'absence. Et il ajoute, c'est ce qui permet le mieux d'imager la situation fondamentale de l'amour. Alors quand même, bon, c'est fort, parce que la perversion se présente de la même façon. Le fétiche comme voile. Donc le fétiche qui cache, qui montre et qui en même temps cache la castration maternelle. Il dit que c'est la même chose que la situation fondamentale de l'amour. Bon, on peut quand même se laisser surprendre par ça. C'est dire que la situation fondamentale de l'amour a quelque accointance avec la perversion. Lacan l'indique clairement d'ailleurs, à plusieurs endroits. La perversion, ou plutôt, dit-il, pour nous limiter là, le fantasme pervers. Donc c'est quand même pas tout à fait la même chose, le fantasme pervers et la perversion. Puis il se donne la peine de le préciser. Ou plus loin encore, juste après avoir parlé du fétiche, il dit ceci. Avec le fantasme, il dit même plus pervers là, il dit avec le fantasme, nous nous trouvons devant quelque chose du même ordre que avec le fétiche. Et oui, malgré l'assomption du symbolique et la dialectique du don qui fait l'essence même de l'amour, tout ça transcendé par le père de la loi qui fait la névrose, la normalité, le fantasme du névrosé est pervers. Et c'est à cet endroit-là qu'il se situe, donc à l'endroit du voile, sur ce qui vient en même temps voiler et situer dans un au-delà ce qui est en jeu dans la relation à l'autre sexe. D'une certaine façon, le névrosé. Pour soutenir son désir, il faudra préciser de quoi il s'agit avec l'introduction de ce terme de désir. Donc, d'une certaine façon, le névrosé, pour soutenir son désir, est fétichiste. Ce voile, Lacan le rapporte au souvenir écran. Quand, dans la chaîne de la mémoire, des souvenirs du sujet, qui est une chaîne signifiante, dans l'association libre par exemple, un élément se fixe, se réduit à l'état d'instantané et arrête le cours de la mémoire en ce point. C'est comme un film, dit-il, qui s'arrêterait d'un coup en un point, en figeant les personnages. Toute l'histoire signifiante qui se déroule se réduit à ce point fantasmatique qui concentre alors en lui toute la charge érotique et libidinale de l'histoire. La perversion, le fétiche en particulier, c'est aussi cette valorisation de l'image qui reste le témoin de ce quelque chose qui, dans l'inconscient, doit être articulé. Le fétiche, c'est cet arrêt sur image, sur le chemin, dit Lacan, de ce qui, du sujet, reste situé dans l'autre avec un grand A, pour autant que justement c'est refoulé. Donc, au moment où la chaîne symbolique qui se déroule, signifiante, s'arrête, il y a le souvenir écran qui surgit, il y a cette image qui surgit et qui renvoie effectivement à ce qui s'arrête justement, qui n'advient pas dans la chaîne associative, disons, et qui donc est refoulée. On saisit dans cette dernière phrase comment le fantasme est une fonction imaginaire, mais qu'en même temps il est articulé au symbolique, à cette chaîne signifiante qui reste refoulée dans l'inconscient. Tout comme le fétiche est ce point fixe, imaginaire, qui voile et en même temps indique ce qu'il y a au-delà, à savoir le manque de l'autre ou la castration de la mère. Lacan reprend un peu plus loin dans le séminaire l'exemple du film au cinéma, pour indiquer comment le fétichisme s'articule aussi bien au symbolique et que ce n'est pas seulement une question d'imaginaire. Je le cite, « Le film se fige soudain, juste avant le moment où ce qui est cherché dans la mer, ce phallus qu'elle a et qu'elle n'a pas, doit être vu en tant que présence-absence et absence-présence. Il s'arrête et se suspend au moment juste avant. Le souvenir écran a la même structure, comme je l'ai déjà indiqué. La chaîne signifiante s'arrête en un point fixe. La chaîne s'arrête, et en même temps, donc, elle indique la poursuite du mouvement au-delà du voile, là où c'est blanc, parce que refoulé, là où est situé le blanc du manque de l'autre. Le souvenir écran est métonymique, dit Lacan. Il est un point d'arrêt dans une chaîne qui se déroule. Vous savez que la métonymie se réfère à la dimension diachronique de la chaîne signifiante, au fait que la chaîne se déroule et qu'il faut du temps pour qu'elle se déroule. Le fétiche est donc un objet métonymique. C'est en cela qu'il tient du symbolique en même temps que de l'imaginaire. Donc c'est en même temps une image et en même temps il a une fonction symbolique. De là, on peut déduire de même que le phallus lui-même est en même temps symbolique et imaginaire, comme le dit Lacan, le phallus imaginaire joue un rôle signifiant majeur. Bon, je voudrais faire un petit retour en arrière pour préciser quelque chose et en même temps poser une question. Lacan en est venu à dire que le fantasme et la perversion ont la même structure. Et donc je disais que le névrosé est fétichiste. Et en effet, le fétiche comme voile a la même fonction que le voile lui-même, dont Lacan dit qu'il matérialise au mieux la situation fondamentale de l'amour. Sur le voile se peint l'absence, se peint quelque chose qui dit « l'objet est au-delà ». L'objet peut alors prendre la place du manque et être aussi comme tel le support de l'amour. Donc, on se situe du côté droit du voile. Mais, ajoute-t-il, c'est en tant qu'il n'est justement pas le point où s'attache le désir. Et donc, le point où s'attache le désir, c'est le voile. L'objet fétiche. Donc pour le fétichiste, il faut l'objet, la présence de l'objet fétiche, l'objet, pour qu'il puisse désirer. Et donc il introduit ici une distinction entre l'amour et le désir. Il ajoute ici que le désir vient, qui est une formule pas facile à saisir, je trouve, vient comme métaphore de l'amour. Donc on avait métonymie de l'objet, hein, de l'objet fétiche. Et ici, on a le désir comme métaphore de l'amour. Que c'est par une métaphore que l'amour se transfère au désir. Une métaphore n'est pas de métonymie. Donc, si la métonymie se rapporte à la diachronie, donc c'est-à-dire au déroulement de la chaîne signifiante, ici, on a plutôt un rapport de substitution synchronique. Rappelez-vous le cri de l'enfant, il prend sa signification du fait qu'il s'oppose à tous les autres cris qui sont là tous en même temps. Donc, c'est-à-dire là, on a, il dort, enfin, il a mal, il est fatigué, il a faim. Donc le cri qui sera interprété par l'autre prend sa signification du fait qu'il s'oppose à tous ceux qui sont potentiellement là au même moment. Donc c'est une fonction synchronique. C'est ça la métaphore. Tandis que l'objet métonymique, c'est... un arrêt dans la chaîne signifiante, c'est plutôt la diachronie. Donc ça veut dire que, métaphore, ça veut dire que le désir et l'amour sont là en même temps. Ils sont là, ils sont présents simultanément, avec ceci, que le désir se substitue à l'amour et le fait passer dans les dessous. L'amour... et ce à quoi il renvoie, à savoir que ce qui est aimé dans l'objet, dans l'autre, dans le partenaire, est au-delà de ce partenaire. C'est son manque, et ça, c'est refoulé. C'est pour ça qu'il y a cette dimension métaphorique. Hein. Donc ce qui... désir, on va faire comme ça. Donc là, on a le versant du désir, et là, on a le versant de l'amour. Et donc le voile justement cache ce qui est derrière, donc le fait que ce qui est aimé dans l'objet, c'est son manque. Et donc si le désir est la métaphore de l'amour, on peut écrire la formule de la façon suivante, qui est la formule de la métaphore. Et d'une certaine façon, on pourrait même être une barre. Donc, c'est-à-dire que le désir métaphorise l'amour en tant qu'il voile le rien de l'objet, le manque dans l'autre. Donc, c'est inconscient. C'est ça que ça veut dire. Par contre, ce qui attache le désir, l'objet, comme il dit, qui accroche le désir, lui, non seulement est illusoire, c'est une image, mais il participe de la métonymie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors c'est intéressant parce que, en effet, pour le fétichiste, ce voile, cette illusion, s'incarne dans la chaussure, par exemple. C'est l'exemple type. Et pour le névrosé, dont je disais, ou pour l'amour, la relation d'amour fondamentale, comme dit Lacan. Moi, je dis pour le névrosé. Donc je disais qu'il était aussi fétichiste. C'est quoi? Qu'est-ce qui vient sur ce voile? Bon, alors je laisse chacun imaginer un peu ce que ça peut être. Je sais pas, un bout de tissu, un tatouage, que sais-je. Mais au-delà de ça, je crois que cet objet qui vient se projeter sur le voile et qui accroche le désir, finalement, on peut le dire avec le Lacan un peu qui vient plus tard, donc cet objet qui cause le désir. Dans le fantasme, mixte d'imaginaire et de symbolique, l'objet de la métonymie du désir, je vous propose ça, ce sera l'objet petit a. Cet objet, donc l'objet petit a de Lacan, et que c'est à cet endroit, donc juste là, à l'endroit du voile, qu'il va venir se loger. Bon, faire un pas de plus. Que se passe-t-il quand quelque chose, à ce seuil de l'Œdipe, rate? Quand se produit, comme dit Lacan, un décomplétage fondamental qui livre le sujet à la relation imaginaire? Quand le sujet est sorti de sa place et qu'il est passé dans une relation spéculaire de la mère au phallus. Donc, voilà la triade imaginaire, la mère, enfant et le phallus. L'enfant ne s'équivale jamais au phallus qui manque à la mère. Et donc, dit Lacan, qu'est-ce qui se passe quand l'enfant quitte sa place? Et donc, il entre, c'est-à-dire qu'il il va se loger là. Dans une relation spéculaire de la mère au phallus. Exactement. D'abord, dit-il, c'est que quelque chose de la symbolisation tierce est insuffisante, à savoir que le phallus garde son statut imaginaire prévalent et qu'il ne prend pas cette fonction symbolique. On note souvent, dit-il, dans ces cas, une carence du père, voire une absence du père dans l'histoire du sujet. Pour Lacan, ça veut dire ici que l'engagement dans l'Œdipe ne se fait pas, ou peut-être plus précisément, se fait de façon tordue, tronquée. Ou plus exactement, il y a quelque chose dans le complexe de castration qui rate, qui se tord, puisque c'est bien avec la mère phallique que le sujet pervers est aux prises. Alors il y a deux possibilités. Soit l'identification à la femme, ou à la mère. Alors ici, il dit des trucs un peu bizarres, tout d'un coup, qui est parachuté dans le séminaire, mais
à cet endroit-là, à la page 160, mais qui pourront revenir plus tard. Identification à la femme confrontée au phallus imaginaire, se rapportant à l'agressivité de la théorie sadique du coït. Ça, c'est quand même quelque chose. Souvent, dit-il, chez des sujets pervers, il y aurait la mise à jour d'expériences infantiles de la scène primitive, vécue comme cruelle, violente, voire meurtrière. Donc,
il quitte sa place d'enfant et entre dans cette relation au miroir de la mère avec le phallus, soit il s'identifie à la mère,
ou alors il s'identifie au phallus imaginaire qui manque à la mère, qui fait le sujet être l'enfant, donc, le sujet enfant, être pour la femme ou la mère un pur objet qu'elle peut dévorer, à la limite détruire. Cela donne forme à d'autres perversions que le fétichisme, par exemple le transvestisme. Ce qui est en jeu n'est pas tellement le voile, dit Lacan, mais plutôt que derrière le vêtement, il y a une femme porteuse du phallus. Donc le transvestiste n'est pas devant le voile, il est derrière le vêtement. Il n'est pas devant le voile où se dessine le fétiche, mais il est derrière, identifié à la mère, voilant qu'il lui manque le phallus, la faisant mère phallique. Parce qu'en même temps, il porte le phallus. Ou alors l'exhibitionnisme. Lacan donne l'exemple de cet homme qui jouait un rôle de souffre-douleur pour sa femme. Un jour, il apprend qu'il va être père. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se précipite dans un jardin public pour exhiber son organe à un groupe de jeunes filles. Ce qui apparaît dans le réel, donc c'est-à-dire l'enfant qui va venir, est inassimilable symboliquement et précipite dans l'imaginaire ce qui est au fond de la relation symbolique, à savoir l'équivalence de l'enfant et du phallus. C'est plutôt d'une identification au sujet au phallus dont il est question ici.
Donc, on a d'une part là,
l'identification à la mère par le transvestisme et l'identification au phallus par cet exhibitionnisme. Bon, alors, je passe toute une série d'exemples que Lacan tire de la littérature de personnages ambigus. Un joli lapsus, hein, c'était le bon endroit. Ouais. Deux personnages ambigus, féminisés, qui incarnent au-delà de la mère le phallus qui lui manque. Je rejoins le point qui sous-tend ces solutions perverses, qui est l'identification. On arrive alors au chapitre suivant, qui s'intitule « L'identification au phallus » et qui impose à Lacan un détour par la question de l'identification dans son rapport à la vie amoureuse. Freud, dans « Psychologie des masses et analyse du moi », est confronté à cette ambiguïté entre l'identification, d'une part, et le choix d'objet, le choix amoureux. Les deux termes se substituant l'un à l'autre, dans Freud. Pourtant, qu'un objet devienne objet de choix n'est pas la même chose que cet objet devienne support de l'identification du sujet. Dans son texte, Freud s'en mêle les pinceaux, dit Lacan, la place à donner à l'objet dans l'identification ou dans l'énamoration reste floue. Dans les deux cas, l'objet est idéalisé. Dans l'identification, l'objet, dit Freud, transforme et enrichit le moi. Donc, par l'identification, le sujet prend les qualités, prend les caractéristiques de l'objet auquel il s'identifie. L'objet devient une sorte d'autre moi dans le sujet. Par contre, dit-il, dans l'état amoureux, donc là Freud essaie de distinguer les deux, le moi s'appauvrit, car le sujet se dépossède de plus en plus de ce qui est lui-même au bénéfice de l'objet aimé. Mais aussi bien, dit-il, juste après, l'état amoureux peut être considéré comme une introjection de l'objet dans le moi. Bon. Autre distinction. Dans l'identification, l'objet est perdu. C'est-à-dire, il n'est pas là dans la réalité. Enfin, et on le retrouve dans le moi. Par contre, dans l'état amoureux, l'objet n'est pas perdu, il est le partenaire. Mais se demande Freud, est-ce que dans toute identification, l'objet est-il perdu ? Donc on voit bien comment le flottement chez Freud, en effet, sur la distinction, identification et choix d'objet. Finalement, pour Freud, l'identification se situe. C'est comme ça qu'il termine son texte, là, en donnant cette différence. L'identification, ça se situe au niveau du moi, et l'objet aimé prend la place de l'idéal du moi. Bon, donc en effet, c'est pas évident pour Freud de s'y retrouver. Comment Lacan va-t-il reprendre ça dans ses pages ? Il repère que Freud noue l'identification à l'introjection, d'une part, c'est prendre l'objet, les caractéristiques de l'objet et les faire siennes, donc les introjeter, et au narcissisme, d'autre part, c'est-à-dire, d'une part, l'incorporation, le mouvement qui va de l'extérieur vers l'intérieur du sujet, et d'autre part, la formation du moi. Lacan va les différencier et les articuler avec la dialectique de la frustration. L'introjection d'abord, ou incorporation. Là, il s'appuie absolument sur Freud. Je vous lis un petit passage du texte de Freud. L'identification se comporte comme un rejeton de la première phase orale de l'organisation libidinale, dans laquelle on s'incorporait en mangeant l'objet convoité et apprécié, et ce faisant, l'anéantissait en tant que tel. Le cannibale, dit-il, comme on sait, aime ses ennemis jusqu'à les dévorer, et il ne dévore pas ceux qu'il ne peut aimer d'une manière ou d'une autre. Bon, donc là, on voit bien que la dimension incorporation dans l'identification. Lacan repart donc de la dialectique de la frustration pour saisir l'identification à partir de l'incorporation. L'enfant appelle la mère en tant qu'elle est son autre, autant absent que présent. Il y a alors du côté de la mère, d'une part, ses dons, objets symboliques, comme on l'a vu tout à l'heure, qui sont signés d'amour et qui sont annulés en tant qu'autre chose que signés d'amour, et puis d'autre part, les objets du besoin, objets réels, qu'elle présente sous la forme de son sein, dit Lacan, ou de la nourriture, tout simplement. Dans la dialectique de la frustration, notons-le, ce n'est pas une étape. D'abord l'un, puis l'autre.
C'est-à-dire ce truc-là, c'est pas d'abord on a l'objet réel, l'autre symbolique, et puis non, c'est pas ça, c'est une dialectique.
Les deux sont présents à la fois. Il y a un équilibre et, dit Lacan, une compensation entre les deux. Chaque fois, dit-il, qu'il y a frustration d'amour, cette frustration se compense par la satisfaction du besoin. Donc,
d'une certaine façon,
dans l'opération,
la dialectique de la frustration, on arrive simplement à ce que ce qui est visé
dans l'appel, c'est ce qui manque dans l'autre, l'objet en tant qu'annulé. Et dit Lacan, quand il y a une frustration d'amour, quand justement il y a quelque chose du côté de l'appel à l'amour de l'autre, au signe d'amour, au don qui fait défaut, alors ça se compense par la satisfaction du besoin. Donc on retourne sur l'objet réel. Cette frustration de l'amour, c'est d'une part quand la mère ne répond pas à l'appel, du côté du don d'amour, du côté de l'exigence d'amour, et d'autre part, c'est quand même, dit Lacan, le caractère insatisfaisant du don d'amour, car il n'est rien en tant que satisfaction, puisque l'objet est annulé. Enfin, je veux dire, avec le don d'amour, on ne satisfait pas le besoin. Le jeu symbolique a donc un caractère fondamentalement insatisfaisant, dit Lacan. Le sein, l'objet réel, la nourriture, devient alors plus significatif que tout. Il prend une signification, laquelle ? D'une part, l'enfant ne peut plus être séparé de la mère, donc il la garde près de lui. D'autre part, il s'en trouve repu. L'enfant écrase ce cas de décevant le jeu symbolique dans la saisie orale de l'objet réel de satisfaction. L'objet réel prend dès lors sa fonction en tant que partie de l'objet d'amour. C'est compliqué ça hein, quand même, mais il faut essayer de saisir ça. L'objet est réel, mais il prend une fonction symbolique en tant qu'il est un bout, le bout du sein, qu'il est une partie de l'objet d'amour. Alors Lacan précise ici, même si cela paraît un peu alambiqué, le sein, la nourriture, est un objet réel, et ce n'est pas un objet symbolique, même s'il est une partie de l'autre, de la mère symbolique. Car l'objet symbolique, dit-il, c'est le don lui-même. Ce n'est aucun objet de la réalité. Donc, c'est un objet symbolique qui prend valeur. Et comme il disait, il devient plus significatif que tout. Il prend valeur symbolique, comme partie, élément de la mère, qui, elle, est symbolique, par son absence et sa présence. Donc, vous voyez, c'est l'objet garde son statut de réel, il vient se substituer à la mère symbolique, en tant que bout, en tant que partie de la mère symbolique, donc il prend une valeur symbolique, une fonction symbolique, mais il garde son statut de réel. Alors, dit Lacan, comme je vous dis que l'objet réel prend valeur de symbole, je pourrais vous dire qu'il est devenu symbole, ou presque, mais ce ne serait qu'un pur et simple tour de passe-passe, dit-il. Et il continue. Ce qui prend accent et valeur symbolique, c'est l'activité qui met l'enfant en position de l'objet. Donc là, il y a un petit saut de la part de Lacan. Donc c'est plus l'objet réel, l'objet nourriture, mais l'activité qui permet à l'enfant d'appréhender cet objet. Et c'est ainsi que Lacan va définir la pulsion, la libido orale, dans cet exemple-ci. Puisqu'elle est entrée dans la dialectique de substitution de la satisfaction à l'exigence d'amour, donc en effet, donc l'activité orale, le fait de prendre la nourriture, se substitue à la satisfaction symbolique, elle devient une activité érotisée, sexuelle, dit-il, et non plus seulement un instinct qui ne sert qu'à la conservation du corps. La pulsion elle-même va prendre chez Lacan, à cette époque, une valeur symbolique. L'activité a pris une fonction érotisée sur le plan du désir, dit-il, lequel s'ordonne dans l'ordre symbolique. Vous savez que Lacan va aller jusqu'à écrire la pulsion par la formule S barré poisson grand D. C'est-à-dire, rien que du symbolique, le sujet barré et la demande. C'est peut-être là que se situe aussi, bon, peut-être, le tour de passe-passe de Lacan qui fait fonctionner la machine symbolique à tout crin. Vous savez, il fait tout rentrer dans le symbolique. En tout cas, à cette période-là, son enseignement. Mais enfin, bon, quand même, c'est probant parce que, par exemple, c'est à partir de là qu'il va articuler l'anorexie mentale. C'est assez intéressant. Hein. Il dit il ne s'agit pas là du refus de manger. Il ne s'agit pas là de ne rien manger. Il s'agit plutôt de manger rien, dit-il. Et donc, là, l'objet réel n'est plus là du tout. Tout ce qui reste, c'est l'activité pulsionnelle. Ça m'a fait penser aussi à, puisque vous avez parlé de Dora, peut-être une des fois précédentes, Freud dit... Dora la suceuteuse. Hein? Donc on voit bien comment c'est l'activité même qui est érotisée et qui devient, en tant que telle, satisfaction substitutive à la saturation symbolique. Donc déception du côté de l'amour et donc une substitution d'abord du côté de l'objet réel et puis après du côté de l'activité même, le suceautement. Bon, donc à partir du moment ou l'objet réel. Bon, ça c'était une petite parenthèse sur l'anorexie, pour bien expliquer que ce n'est pas l'objet même qui est en jeu, mais même l'activité même. À partir du moment où l'objet réel peut se substituer au don d'amour, comme élément, comme partie de l'objet symbolique qu'est la mère, tout autre objet qui satisfait un besoin réel peut venir se mettre à cette place. Au premier rang, dit Lacan, la parole. L'incorporation de la parole en tant que substitut au défaut du don va être à l'origine de l'information du surmoi. Et dans la série, alors là, il met aussi le pénis. Il dit bien le mot pénis, pas phallus. Hein. Incorporé imaginairement par le sujet, comme objet compensatoire de la frustration de l'amour. C'est l'introduction de cet organe. C'est difficile à imaginer. Plutôt, c'est imaginaire, évidemment. C'est une incorporation imaginaire. Mais c'est de cette façon-là, me semble-t-il, que Lacan introduit cet organe dans la dialectique libidinale et sexuelle, donc dans le rapport à l'autre. Bon. Alors, il y a ici un passage qui n'est pas si simple. Alors, j'étais confronté à des moments assez compliqués, d'accord. Hein. Une espèce de coupure. Donc il dit, bon, il déploie l'identification, c'est l'incorporation, et ça va même jusque l'incorporation imaginaire du pénis. Et puis il dit, il y a aussi l'autre façon dont le pénis entre dans l'économie imaginaire, c'est en tant que phallus qui manque à la mère, en tant qu'il est au-delà de sa puissance d'amour. Bon. Donc, dans un premier temps, il développe le phallus qui manque à la mère, comme objet imaginaire, mais qui peut être aussi symbolique, etc., etc. Avec son développement sur l'identification, il en arrive avec l'incorporation imaginaire du phallus, du pénis, pardon. Et puis, il y a ces deux choses-là qui semblent pas... c'est pas la même chose. Hein. Et il se trouve là devant... quelque chose qui colle pas vraiment ensemble et qui doit trouver à articuler. C'est la question de l'identification par l'incorporation, et puis le phallus qui manque à l'autre en tant qu'il est absent. Donc si j'ai bien saisi, le côté incorporation orale du pénis, c'est pour expliquer le mécanisme de l'identification. Donc rappelez-vous, pour expliquer... Hein, donc, l'identification chez Freud, il a repéré deux choses. D'une part, l'identification, d'autre part, le narcissisme. Ici, il a expliqué la dimension identification. Et donc, ce mécanisme d'identification doit servir à quoi ? Il doit servir à expliquer les phénomènes d'identification au phallus dans la perversion. N'oubliez pas, on vient de là. Mais le phallus, ce n'est pas un objet réel. Comme le sein ou le pénis. Il est imaginaire ou symbolico-imaginaire. Et puis, ce qui revient dans le discours de Lacan, une fois de plus, c'est comment l'enfant peut-il apercevoir le phallus qui manque à la mère ? Comment a-t-il accès ? Comment peut-il repérer le manque de la mère qui s'appelle phallus ? Car il faut bien qu'il le repère pour alors, dans un second temps, se proposer comme pouvant être son substitut. Comme pouvant être lui, l'enfant, le substitut du phallus qui manque à la mère, comme objet qui comble ce manque par une identification au phallus. Pour expliquer, pour articuler ça, Lacan fait intervenir le second pan de l'identification freudienne, à savoir le narcissisme ou la formation du moi. Il dit que ce qui fait la différence entre l'identification pure et simple, l'identification freudienne primitive qui se base sur l'incorporation, donc là, ce qui différencie cette identification et l'énamoration, c'est-à-dire le lien avec un objet d'amour, le choix d'objet, c'est l'introduction du narcissisme. Et cela, dit-il, se passe dans un second temps par rapport à la dialectique de la frustration. Donc, on pourrait dire,
que j'ai encore de la place.
Il y a un tableau en dessous, là, c'est ça? Donc, que l'incorporation se rapporte à l'identification, ou que l'identification se rapporte à l'incorporation. Et que le choix d'objet, par contre, se rapporte au narcissisme. On peut mettre ici choix d'objet ou rapport au phallus. D'une certaine façon, pour que on puisse passer du pénis qui est incorporé, qui soutient l'identification, pour passer de ça, de l'incorporation du pénis au phallus, au choix d'objet, il faut en passer par le narcissisme. C'est ça qui me semble être le mouvement de Lacan ici dans ces pages-là. Dans l'identification freudienne primitive, il le dit bien, c'est je retrouve la page. L'un, appelons-le le pénis, à page 175, tout en bas. L'un, appelons-le le pénis, qui est tout de même une fonction imaginaire, pour autant que c'est imaginairement qu'il est incorporé. L'autre, c'est le phallus, en tant qu'il manque à la mère, et qu'il est au-delà d'elle et de sa puissance d'amour. Donc vraiment, ici, une distinction radicale. Et donc, pour que passer de l'un à l'autre, pour articuler ces deux trucs qui semblent incompatibles, il faut le narcissisme, donc la formation du moi. Bon, la formation du moi, chez Lacan, on connaît. C'est le stade du miroir. L'enfant, dans le stade du miroir, on en a déjà parlé de ça ici. En même temps, fait l'expérience jubilatoire de la complétude de son corps. Non, pardon, excusez-moi, du corps qu'il a en face de lui et auquel il s'identifie. Et en même temps, il fait l'expérience de ce qu'il ne maîtrise rien du tout. Et qu'en fait, en même temps, il fait l'expérience de sa propre incomplétude vécue. Donc l'enfant, en face d'une dans le miroir, en face d'une image totale, l'image du corps qui se constitue dans le miroir, dans l'imaginaire, comme ce qui vient se découper dans le décor, hein. Et en plus, il peut la maîtriser, parce que quand il lève sa main, dans le miroir, l'autre lève sa main également. Donc jubilation. Jubilation anticipée, de se vivre comme complet. Mais en même temps, enfin, je veux dire, il déchante très vite, parce que quand il se retourne dans l'expérience du miroir vers sa mère, qui est aussi du coup une image totalisée, eh bien, il ne la maîtrise pas. Elle, cette image-là, cet autre-là, n'obéit pas du tout à l'enfant. Et de plus, quand même, du côté du corps de l'enfant, dans le miroir, dans l'expérience du miroir, c'est un enfant qui ne peut pas encore tenir debout. Il faut justement la mère, l'autre, qui le soutienne devant le miroir. Et vous voyez ces enfants qui sautent devant le miroir et qui sont contents de se regarder, qui jubilent. Mais eux ne peuvent pas se tenir. Ils vivent leur corps comme morcelé. Il est en somme impotent face à cette image qui se présente comme totale. Il ne sait même pas se tenir debout alors que l'image est complète. Il se vit comme morcelé alors que l'image forme un tout. Je vais vous faire un petit point de lecture, page 186. Ça va, j'ai encore... J'ai pas très longtemps. En fait, j'ai presque fini. Au moment où le sujet saisit la totalité de son corps propre dans sa réflexion spéculaire, c'est plutôt un sentiment de triomphe qu'il éprouve. Ça, c'est la jubilation. Sentiment de triomphe qu'il éprouve, de la maîtrise, la maîtrise est donnée au sujet sous la forme d'une totalité à lui-même aliénée, étroitement liée à lui et dépendante de lui. C'est la jubilation, mais quand il rencontre la réalité du maître, lorsqu'il se trouve en présence de cette totalité sous la forme du corps maternel, il doit constater qu'elle ne lui obéit pas. Lorsque le stade du miroir entre en jeu, la toute-puissance maternelle n'est alors réfléchie qu'en position nettement dépressive. Et c'est alors le sentiment d'impuissance de l'enfant. Donc voilà, on voit bien l'articulation des deux. Il explique par là la fameuse position dépressive chez l'enfant dans la théorie de Mélanie Klein. Je ne peux pas revenir en détail sur cet exemple, mais dans les pages des chapitres précédents, peut-être quelqu'un a évoqué l'exemple de cette petite fille qui a une phobie pendant la guerre. Une phobie du chien qui mord. Hein. Rappelez-vous, c'est au moment où la mère revient, appuyée sur une canne, touchée dans son corps, au moment où son image est touchée, que la phobie du chien qui mord surgit. Bon, tout cela, dit Lacan, repose sur une supposition. Oh non, j'ai sauté quelques lignes. Voilà, donc c'est à partir de cette expérience du miroir que l'enfant fait celle, donc l'expérience, de la toute-puissance de l'autre, hein, sous la forme de sa propre impuissance, ce qui l'introduit à son propre manque, à son propre défaut imaginaire. Mais au-delà de son propre manque, dit Lacan, le miroir va donner accès à l'enfant au manque de l'autre. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Puisque la question récurrente de Lacan, c'est comment est-ce que l'enfant peut subjectiver le manque de l'autre? Comment est-ce qu'il peut avoir accès? Comment est-ce qu'il peut apercevoir que l'autre, que sa mère, manque du phallus? Pour pouvoir s'identifier, comme dans la perversion, à la mère ou au phallus, il faut qu'il puisse apercevoir qu'elle en manque. Comment? Voilà. Alors, je vous refais la lecture, page 176. Je me disais bien qu'il manquait un petit morceau. C'est le cas de le dire. C'est par rapport à cette image qui se présente comme totale qu'il réalise, donc l'enfant, qu'il peut, à lui, manquer quelque chose. C'est en tant que l'imaginaire entre en jeu que sur la fondation des deux premières relations symboliques entre l'objet et la mère de l'enfant, donc
la dialectique de la frustration, n'est-ce pas,
peut apparaître ceci, qu'à la mère comme à lui, il peut manquer imaginairement quelque chose. C'est dans la relation spéculaire que le sujet a l'expérience et l'appréhension d'un manque possible, que quelque chose au-delà peut exister qui est un manque. Voilà, on y est. Ce n'est qu'au-delà de la réalisation narcissique, et pour autant que commence à s'organiser le moi, que peut s'introduire ce qui fait paraître au sujet, au-delà de ce qu'il constitue lui-même comme objet pour la mère, cette forme que l'objet d'amour est pris, captivé, dans quelque chose que lui-même, en tant qu'objet, n'arrive pas à éteindre, qui se rapporte au propre manque de l'objet d'amour, de la mère. Donc, c'est pour ça que j'ai repensé à la mère de cet enfant, cette petite fille phobique. C'est-à-dire, c'est au moment où il y a quelque chose dans l'image de la mère, il y a un coin dans cette image, donc elle est sur une canne, elle s'appuie sur une canne, il y a quelque chose d'un manque qui s'introduit dans l'image de la mère, que la phobie surgit. Donc il y a quelque chose qui se produit au niveau subjectif pour l'enfant. Donc l'image, on peut être un peu déçu, mais ici, à ce moment-là, dans cette période pré-œdipienne, c'est l'image, c'est le rapport à l'image qui permet à l'enfant d'avoir un accès au manque, le sien et puis celui de l'autre. Tout cela, dit Lacan, repose sur une supposition. C'est qu'aucune satisfaction par un objet réel quelconque qui viendrait s'y substituer ne parvient jamais à combler le manque dans la mère. Le manque de phallus. Le sujet enfant apporte ainsi, au-delà de l'objet d'amour, ce manque auquel il peut être amené à se substituer, à se proposer lui-même comme objet qui le comble. Mais comment satisfaire la mère inassouvie, celle qui ne peut être satisfaite? Comment l'enfant pourra-t-il donner à la mère cet objet qui lui manque à elle et à lui aussi d'ailleurs? Car dans l'imaginaire, dit Lacan, le phallus du petit garçon n'est pas beaucoup plus vaillant que celui de la petite fille. Et s'il tente de séduire sa mère, c'est parce qu'il veut se faire croire un mâle porteur du phallus, alors qu'il ne l'est qu'à moitié. En fait, puisqu'il lui est impossible de combler le manque de l'autre, il va le leurrer. L'enfant va se faire objet trompeur. Il va tenter de tromper ce désir qui ne peut être assouvi. Il s'agit d'un jeu de furet, dit Lacan. Car le phallus, il s'agit de voir où il est et où il n'est pas. Il n'est jamais vraiment là où il est et il n'est jamais tout à fait absent là où il n'est pas. Donc on saisit bien ce jeu de furet. Autrement dit, s'il est imaginaire, car il est ressorti à l'image du corps, le phallus est aussi insignifiant par ce jeu d'alternance, de présence et d'absence. On saisit ici, une fois de plus, comment le phallus est un objet spécial qui noue l'imaginaire et le symbolique. Ce qui revient à dire, si nous suivons les éclairages que nous donne Jacques-Alain Miller sur l'enseignement de Lacan, que le phallus, objet imaginaire, à valeur de signifiant, noue, d'une certaine façon, la jouissance et le symbolique. Alors, je voudrais revenir pour terminer à la façon dont Lacan introduit la question de l'identification en partie de la perversion. Vous vous rappelez, il disait ces phrases bizarres qui venaient comme ça tout d'un coup dans ses pages. Donc, les deux solutions identificatoires pour le pervers, c'est soit l'identification à la femme. Donc, quand l'enfant, dans la triade imaginaire, quitte sa place pour rentrer dans le jeu en miroir entre la mère et le phallus. Soit identification à la femme, où la mère, confrontée au phallus imaginaire, se rapporte à l'agressivité de la théorie sadique du coït. Bon. Rappelez-vous ça, donc souvent, chez les sujets pervers, il y aurait la mise à jour d'expériences infantiles de la scène primitive vécue comme cruelle, violente, voire meurtrière. Eh bien, il me semble qu'on retrouve quelque chose de ça dans ce jeu de leurre auquel s'adonne l'enfant à l'égard de la mère. Dans la façon dont Lacan souligne qu'il tente de séduire la mère, par des assauts teintés d'agressivité sexuelle. Ce n'est pas ici que l'enfant s'identifie à la mère, mais plutôt que pour tromper l'autre, pour tromper ce désir qui ne peut être satisfait, il se sert de la version sadique du rapport à l'autre sexe. Et dans la seconde identification, l'identification au phallus cette fois-ci, donc rappelez-vous, identification au phallus imaginaire qui manque à la mère, qui fait le sujet être pour la femme un pur objet qu'elle peut dévorer, à la limite détruire. On retrouve ce point à la fin de la troisième leçon que je devais pour vous. J'ai dit « devais », je peux le dire au passé maintenant. Donc vous commentez, cette mère inassouvie, qui ne peut pas être comblée, elle se présente à l'enfant comme une gueule ouverte, qui cherche ce qu'elle va dévorer comme substitution à son manque fondamental. Parce que pour elle aussi, ça vaut finalement de se rabattre sur l'objet réel pour se substituer à l'insatisfaction symbolique. Fantasme de dévoration qu'on retrouve aussi bien dans la vie sexuelle, sous la forme du trou béant de la tête de Méduse, et figure par laquelle Lacan introduit, à la fin de ce chapitre, le petit Hans dans son séminaire. Et donc ça, c'est pour la suite. Voilà.
Bien. Un tissage complexe.
Ben oui. J'espère que je ne vais pas trop donner le tournis.
Ce qui, personnellement, m'a marqué, c'est vraiment de pouvoir situer avec les points de repère que vous avez donnés cette structure de la perversion à une articulation finalement entre psycho, si la traversée du complexe d'Œdipe ne se fait pas, et névro, si elle se fait. Et de saisir ce moment d'articulation-là, je trouvais que c'était vraiment très, très riche. Enfin, ça, c'est une première chose. L'autre chose, vous avez dit, je repense simplement à des situations cliniques qu'on peut rencontrer. Chaque fois qu'il y a frustration d'amour, il y a comble du besoin. Et je pensais au fond à certaines mères qui peuvent se présenter en consultation parlant de leur enfant et qui mettent en avant tout ce qu'elles peuvent mettre en œuvre pour leur enfant, se présentant comme des mères finalement très parfaites et très comblantes, et des enfants qui néanmoins viennent en consultation parce que justement ils ne vont pas bien. Il me semble que c'est des choses qu'on peut rencontrer dans la pratique clinique. Et alors, voilà, j'étais aussi très interpellée, mais peut-être en me disant que ça, c'est quelque chose à retravailler sur cette dimension métaphore-désir et métonymie au niveau de... Alors, je retrouve mes notes... au niveau de ce qui fait écran, soit le fétiche, soit le souvenir écran, à prendre dans la dimension diachronique au fond. Cette mise en évidence là me semblait intéressante, et je me disais au fond
le désir s'articule à l'amour de façon métaphorique,
voilà,
mais il s'articule à l'objet de façon métonymique.
Voilà.
D'accord, c'est ça. C'est, oui.
Et au fond, de voir, peut-être alors dans la cure analytique, tous ces glissements successifs qui se font également. Lorsque un souvenir écran est dépassé ou travaillé, voilà. C'est... Mmh. J'en resterai là, et puis je vous passerai la parole.
Oui, des mères qui se présentent comme comblantes. Donc c'est-à-dire qu'elles... C'est difficile de faire des généralités, mais... Donc une mère qui donne ce qu'elle a, ça fait des difficultés pour l'enfant. Ce qu'elle loupe, d'une certaine façon, et l'enfant le dit par son malaise... ou par son mal-être, ce qu'elle loupe d'une certaine façon, c'est que ce qu'il y a à donner, c'est ce qu'elle n'a pas, justement. Hein? Et donc, c'est de rabattre le don sur l'objet réel, quand même, lui donne tout ce dont il a besoin. Hein? Voilà. Donc, l'amour est rabattu sur l'objet réel. La nourriture, les chips qui vont avec la télévision, avec les objets de consommation, le GSM, la PSP, la... Il y a des enfants qui vous disent comment ils ont non seulement la PlayStation 3, mais aussi la Mega Cube, machin, truc. Et donc, en effet, ce qui est raté dans le truc, c'est que s'il s'agit de donner, c'est ce qu'on n'a pas. Et l'enfant, dans son rejet, d'une certaine façon, de l'objet, dans l'anorexie mentale, Lacan dit ce qui est rejeté, ce n'est pas l'activité de manger, c'est l'objet. Et il me semble qu'il peut y avoir certaines situations, en effet, où des mères viennent avec leur enfant parce qu'elles ne s'en sortent plus avec lui, malgré qu'elles leur donnent tout ce qu'elles ont. Et voilà. Et donc là, il s'agit peut-être de réintroduire quelque chose du manque, hein, pour que la situation puisse se décoincer. Voilà. Puisque, en effet, l'amour, s'il est rabattu sur l'objet réel, ben, c'est plus l'amour. D'une certaine façon. Alors, métonymie et métaphore, je crois que d'une certaine façon, en effet, la cure, le déroulement de la cure est une métonymie. C'est l'association libre, c'est ça. Maintenant, qu'il puisse avoir à certains moments une précipitation d'éléments métaphoriques, ça, je pense que ça arrive, bien sûr. Mais la cure en elle-même est une métonymie. Et d'ailleurs, ce qui fait qu'elle continue, qu'elle se poursuit, c'est la satisfaction liée à la métonymie. Le plaisir de parler. Hein? Et y a une satisfaction qui est liée à ça. Bon, en effet, donc le souvenir écran, alors c'est... je ne sais pas si ça se traverse, j'en sais rien. C'est une formule de Lacan. Hein, donc c'est vrai que vous mettez en lien le souvenir écran avec le voile du fantasme. Hein, donc c'est ainsi que vous ramenez la dimension traversée. Oui, il faudrait pouvoir l'articuler. Comment est-ce que, en effet, ça se traverse? Comment ça se lève, peut-être? Bon, en effet, il dit qu'à la même place vient dans le souvenir écran, qui condense en lui-même, en son point, tout ce qu'il y a derrière. Et qui est donc du coup refoulé, qui est inconscient. Et donc il a d'une certaine façon en puissance tout ce qu'il y a derrière. Et donc c'est pour ça que je disais que comme c'est lié au fantasme, et que le fantasme s'écrit chez Lacan. Esbarré point son petit tas, je me disais que sur ce voile, s'accroche l'objet A, cause du désir chez Lacan. Alors la traversée du fantasme, ça se fait pas par... Enfin, alors ce qui se fait par étapes, c'est pas des traversées successives, c'est quelque chose qui, justement, de l'objet A se réduit. Dans la cure analytique qui s'extrait du fait même de la métonymie analysante, hein, qui se logifie, qui se... On en fait le tour de plus en plus près. Hein. Et c'est vrai que Lacan, à un moment donné, a articulé la fin de la cure à la traversée du fantasme. Bon. C'est une modalité... Miller dit lui-même, on en a fait nos choux gras pour la fin de la cure, mais enfin, quand même, Lacan a utilisé ce terme-là une fois. Bon, la traversée de la cure. La traversée du fantasme. Donc, bon. Je dirais plutôt que la cure permet d'isoler, d'extraire de la chaîne signifiante, justement, ce point-là, autour de quoi ça tourne, justement. Voilà. Je dirais comme ça.
Vos questions ?
Ah, mais ça n'empêche pas d'avoir un stade du miroir. Ça n'empêche pas donc, qu'une personne malvoyante puisse mentaliser une image.
Même si elle n'a jamais vu son corps, ni le corps de quelqu'un.
Il faut le supposer, ne fût-ce que pour pouvoir se tenir debout et pouvoir circuler dans le monde. Il faut supposer que cette personne puisse se constituer une image du corps. Hein? Et donc, maintenant, je dirais le stade du miroir, il est en effet illustré par Lacan à ce moment de 6 mois, en effet, l'expérience du miroir, etc. Mais c'est le rapport au petit autre, d'une façon générale, qui est en jeu. C'est-à-dire le rapport à celui qui est en face de lui. Et donc le malvoyant a aussi un rapport au corps de l'autre qui est en face de lui d'une certaine façon. Hein. Et d'ailleurs, ils ont, me semble-t-il, enfin, je ne suis pas un grand spécialiste, mais me semble-t-il, ils ont un lien tout particulier à l'image du corps, puisqu'ils viennent le toucher pour pouvoir reconnaître, et pour pouvoir... reconnaître celui qui est en face de lui. Enfin, ils ont donc c'est pas par le biais, le truchement du regard, des yeux, disons, mais par exemple par le truchement du toucher, que une image du corps peut se former pour quelqu'un qui est malvoyant. Hein? Moi, je dirais comme ça. Mais il faut, tel que c'est articulé par Lacan ici, il faut supposer effectivement qu'il y a quelque chose de l'image du corps qui se constitue pour le sujet, pour pouvoir effectivement approcher. Se subjectiver un manque et s'avancer vers l'Oedipe, d'une certaine façon.
Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que cette constitution de l'image du corps, si elle se fait dans le miroir ou par d'autres moyens, elle est prise dans le symbolique et dans le discours de la mère qui dit
oui.
C'est toi, regarde, ou c'est ton image. Et que ça peut se faire sans la vue aussi.
Voilà, c'est ça qui ça c'est effectivement bon, ça c'est j'ai pas repris ici parce que j'ai pas détaillé le stade du miroir, mais en effet il y a quelque chose qui pas dans le stade du miroir n'est pas seulement imaginaire, mais qui est aussi une nomination hein, de la part de l'autre, hein, donc de l'autre, la mère, mais donc du symbolique, du monde des signifiants qui vient nommer donc l'enfant dans mettre un nom sur l'image. Voilà, ouais. En effet, tout à fait.
Encore une question ? Eh bien, on peut peut-être en rester là. On se voit dans 15 jours. Hein. Très bien. Bonne fin de journée. Et merci beaucoup.
Où est-ce qu'on est, tiens, ce truc ?